RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket tous les mardis sur rmc.fr avec la Dream Team composée aujourd'hui de Frédéric Weiss, Stephen Brun et Arnaud Valadon. Bonjour
messieurs.
Salut.
Hello
everybody.
Arnaud, il y a un petit problème capillaire là d'entrée de jeu. Je sais qu'on est en podcast, qu'on a pas les images, mais
du gel.
T'as une crête de coq sur la tronche.
Oui, c'est avec le casque et puis les cheveux sont un peu longs.
C'est Mister T.
Ouais, c'est marié à tout prix.
Fred, il peut pas y avoir de problème capillaire, il y a plus de cheveux. On est tranquille.
Arnaud Valadon. C'est le barracuda d'RMC.
C'est un Basket Time spécial, récompense spéciale, MVP même pour être plus précis. Embiid est-il le vrai MVP de la saison ? Ce sera pas lui, mais je vous pose la question quand même. Est-ce qu'il est le vrai MVP de la saison ? Ça va être l'occasion d'un débat sur le trophée suprême individuel.
Philosophique presque.
D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment le trophée suprême ? Est-ce que MVP des finales, c'est pas mieux finalement ?
C'est-à-dire que tu as gagné la finale généralement.
Non, mais évidemment que le MVP des finales, c'est mieux.
Mais c'est moins prestigieux, c'est fou.
Mais c'est hyper prestigieux quand même d'être MVP de la saison, parce que c'est de la longévité sur la saison.
Notre deuxième débat passera en revue les autres récompenses. Qui est en train de marquer la saison NBA selon vous ? Victor Wembanyama, bien entendu, mais il n'y a pas que lui. Et puis dans la partie historique, vous allez me dire quel joueur s'est fait voler un titre de MVP ? Ça arrive. Comme Iniesta s'est fait voler un ballon d'or, par exemple. Comme Franck
Buffon
Ribéry
s'est fait
par Messi.
Buffon s'est fait voler un ballon d'or.
Si, il a volé des ballons d'or.
Comme Ribéry s'est fait voler un ballon d'or.
Ah ouais.
Non ? Ça arrive pas en NBA, ça ?
Si, sûrement, il y a des petits scandales. Hein.
T'en as un sous le coude, j'ai l'impression, non ?
Oui.
Je vois qu'il y a des choses sous ton coude.
Il est là.
Le quiz, j'espère que vous allez réviser vos classements MVP, hein, vos récompenses depuis, ça fait maintenant combien ? 60 ans que ça existe, le MVP ?
Arnaud et Fred, je sais pas s'ils ont révisé, parce qu'ils ont joué NBA 2K depuis une
année. Ouais, mais quelque révisé. Part, on était dans le thème.
Oui.
Attends, il a pris les Sonics avec Sean Kemp.
Hein, et j'ai gagné. Et j'ai gagné aujourd'hui.
Non, il y avait un.
Sean Kemp qui n'a jamais été MVP.
Non.
Non. Bon, si, mais pas dans ce genre.
Avant de démarrer, quand même, on va vous raconter les quiz. S'ils jouent à NBA 2K, ces deux-là, au lieu de préparer l'émission.
MJC.
Je remarque que Fred est très mauvais perdant.
Ah ouais ?
Ouais, je remarque ça.
Je déteste perdre.
Surtout quand c'est Arnaud.
Ah non, j'ai rien contre Arnaud.
Qui a une console, celui ?
Moi.
Ah, donc tu joues ?
Ça m'arrive.
Voilà, mais lui, c'est un drogué de NBA 2K, Arnaud.
Après, c'est pas de ma faute s'il préférait donner la balle à Raph LaFrance avec Dallas, qu'il avait pris tout à l'heure, que Dirk Nowitzki.
Il a été très bon, Raph LaFrance.
Donc ton go-to-guy à Dallas, c'était LaFrance, c'était pas grave.
Non, c'était Steve Nash.
Donc en fait, t'aimes perdre, quoi.
Non, j'aime pas perdre, mais j'aime me mettre des challenges.
Bon, allez, c'est parti. Donc, c'est un spécial MVP. Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
Embiid loses it, hits the floor, trying to save it, and Embiid is down. Joel Embiid is down on the ground. Oh, I was right there.
Landed right on his leg, probably hyperextended.
Gilgeous Alexander lost it. It came back to him, and he laid it home.
Missed it.
Oh, Doncic! A grown man's jam on the follow.
Tap out to Dame. He's got Chris, gives it to him, drops it off to Giannis, who gets the finish.
Gilgeous Alexander with that streak of consecutive 30-point games slams on the brakes and knocks it down over Gordon. Timeout.
Alors, on y va. Donc, Joel Embiid est-il le vrai MVP de la saison ? Pourquoi cette question ? Parce qu'il ne sera pas MVP, il n'a pas joué suffisamment de matchs. Et pourtant, son impact est incroyable hein, dès qu'il est là. C'est pas du tout la même équipe des Sixers et il est tout à fait dans le jeu pour déterminer qui est le joueur le plus impactant de la saison. Alors, qui sont les candidats qui, eux, ont une chance de l'avoir, Arnaud ?
Dans le classement, les classements qui sortent régulièrement, faits par la NBA, les grands médias américains, voilà les cinq noms qui ressortent en premier. En cinquième position, il y a Luka Doncic. Saison exceptionnelle.
Il n'est que cinquième.
Voilà. 34 points, 8 rebonds, 8 passes. Mais le problème, c'est le bilan des Mavs qui sont 8e, qui se battent actuellement pour être en play-in, même si c'est très serré hein, dans ce milieu de classement de la conférence Ouest. En 4e position, Jason Tatum, le meilleur joueur de la meilleure équipe à Boston. 27 points, 8 rebonds, 5 passes. 3e position, Giannis Antetokounmpo. 30 points, 11 rebonds, 6 passes. Double-double, évidemment, pour le joueur des Milwaukee Bucks. Et surtout, il est dans une très bonne période. période. Il a signé un de ses meilleurs mois au pourcentage, tout simplement au tir, et surtout à 3 points, à près de 43%, ce qui pour Yanis est quand même pas mal. Donc il y a cette pente ascendante, on va dire, pour Yanis. Shai Gilgeous-Alexander, évidemment, le go-to guy du Thunder d'Oklahoma City, 31 points, 5 rebonds, 6 rebonds, le très bon bilan du Thunder, deuxième à l'ouest, hein, s'ils viennent de perdre la première place. Et celui qui est mis numéro 1, le favori, c'est Nikola Jokic, avec évidemment ses 26 points, 12 rebonds, 9 passes, toujours aussi dominant avec les Denver Nuggets. 6 victoires de suite, hein, Denver est en train de bien remonter à l'ouest. Et il y a aussi une de ses stats qui a un petit peu fait écho aux États-Unis, c'est qu'il avait fait un triple-double avant le début du quatrième quart-temps. C'est la première fois depuis un certain Russell Westbrook, c'est-à-dire qu'il avait déjà 10-10-10 dans toutes les catégories, dans trois catégories, après seulement trois quarts temps. Donc voilà, un Jokic qui monte en puissance comme son équipe et qui est annoncé plutôt favori.
Lucas, qu'on a fait un en une mi-temps de triple-double.
Si, ouais, je crois, ouais.
Il me semble.
Alors moi, j'ai vu cette stat tout à l'heure.
I think so.
Si Joel Embiid était éligible,
je crois.
Où serait-il dans ce classement, Fred ?
En fait, la question ne se pose pas.
Oui, mais nous, on la pose justement.
Ben non, mais en fait elle me dérange, cette question, Pierre. Parce
pourquoi
que, parce qu'en fait, c'est comme si tu disais, ah ben, qui va le plus vite si je roule à 200 km/h ? Ben oui, mais t'as pas le droit, il y a des règles, en fait. La règle, c'est que tu dois jouer un minimum de matchs. Là, à partir de maintenant, il est à 34 matchs. Et on ne sait pas quand il va revenir, et peut-être qu'il ne reviendra pas de la saison régulière. C'est-à-dire qu'il a 40% des matchs joués. Mais c'est-à-dire quoi ? C'est quoi la limite ? Si un mec joue un match, il met 50 points, c'est lui l'MVP ? Pour moi, tu ne peux pas débattre comme ça. Il a fait une partie de saison incroyable. Joel Embiid est un joueur fantastique, qui était en progrès au niveau de la passe, qui faisait mieux jouer son équipe, et, effectivement. Sauf qu'à un moment, voilà. Il y a des règles, et 34,
il y a des règles,
et donc 40% des matchs, ce n'est pas suffisant.
Il n'est pas question de remettre en cause la règle, il est question de parler du niveau d'Embiid. Est-ce qu'un Embiid qui aurait fait 65 matchs dans la saison, selon toi, avec le niveau qu'on a vu avoir cette saison, méritait le titre de MVP ?
Toujours pas, parce qu'il en faut 66. Mais avec 66, il mériterait...
Non, 65, c'est bon, je crois.
Il en faut 66, je crois.
Non, 65,
65 c'est joué.
Ouais, il faut jouer à 65 minimum. Oui. Okay.
Bon, donc,
oui.
Ah, alors pourquoi ?
Oui, parce que déjà, son équipe serait plus haut que ce qu'elle est actuellement, parce qu'ils sont en souffrance. Nick Nurse, il propose des choses, et d'ailleurs, une belle équipe qui est construite maintenant, mais il propose des choses sans Joel Embiid, donc c'est quand même très compliqué. Donc je pense que son équipe serait mieux classée, et à partir de là, avec les stats mieux classées, et en partageant plus le ballon, bah oui, pour moi, il serait MVP.
C'est-à-dire, il le mériterait devant Jokic, devant Doncic, devant Tatum, oui, et devant Yannis.
Le problème, Embiid, c'est le joueur what if, quoi. C'est le problème, c'est...
On n'est plus sur le what if, là. Il a quand même montré quel joueur
non,
c'était.
Non, mais
MVP la saison, il est déjà MVP de la saison.
Je te parle pas sur. C'est que il a fait 8 saisons NBA, c'est sa 8e saison NBA. Il n'en a fait, où il a joué plus de 65 matchs, que 4, c'est que la moitié. Et le problème de Joel Embiid, bah, c'est son physique, c'est qu'il n'est pas là tous les soirs à délivrer à l'image d'un Nikola Jokic, à l'image des autres joueurs de cette ligue. C'est qu'il
en fait, c'est un joueur très lourd qui va à l'impact. Et donc force et qui joue pas comme un Nikola Jokic. Jokic, il a pas besoin de son physique. Concrètement, on le voit. Même s'il court bien plus vite et il saute bien plus haut que ce qu'on peut imaginer, il en a pas besoin.
Mais pas de contre déjà, Jokic.
Ouais, voilà,
il y a moins de risque de se fracasser en l'air.
Il est tellement bon défensivement aussi, Joel Embiid, effectivement. Oui. Donc concrètement, c'est logique qu'il se blesse.
C'est pour ça que je dis le what if, c'est qu'il est tellement fort quand il est à 100% de ses moyens. Effectivement, personne ne peut le contester. Mais sauf qu'il est rarement à 100% de ses moyens.
Sur le début de saison, il était quand même à 100% de ses moyens parce qu'il fait une saison historique. Donc s'il n'y avait pas eu la blessure...
Mais jamais sur 82 matchs.
Embiid, il aurait fait le back-to-back. Mais facile, en fait.
Facile.
Mais facile, parce que c'était une saison historique.
Facile au-dessus de Jokic.
Mais bien sûr, parce qu'il y a ce match à 70 points qui, pour moi, fait la différence par rapport à Nikola Jokic. Il y a ce record de franchise où il y a 22 matchs de suite à au moins 30 points, ce qui n'a jamais été fait chez les Sixers, qui est quand même une franchise qui a vu passer quand même pas mal de bons scoreurs. Record de franchise. Il y a 16 matchs de suite à 30 points et 10 rebonds au moins, ce qui n'a jamais été fait. C'est une saison phénoménale, en fait. C'est une saison à la Michael Jordan sur la domination de Joel Embiid. Malheureusement, quand tu joues pas le nombre de matchs minimum, eh ben t'es pas qualifié.
Par contre, s'ils rejouent comme prévu au mois d'avril, ils peuvent être champions avec ce que tu me dis.
Oui,
parce qu'honnêtement, ils ont bien
sûr,
ils ont
très fort.
Mais c'est très fort.
Et là, je les ai vus. Bah, ils ont C'était dimanche à 19h, ils ont battu Dallas à Dallas sans Joel Embiid. Alors Dallas ne défend pas un cachou. Mais
alors qu'ils ont commencé à un 11-0, je me suis dit ils vont prendre une rouste.
Mais cette équipe des Sixers, tu rajoutes Joel Embiid, ils ont tout ce qu'il faut en magasin. Tyrese Maxey, on en parlera tout à l'heure. Tobias Harris est un formidable troisième roue du carrosse, si vous voulez. C'est un fantastique joueur. Paul Reed en sortie de banc, ils ont Mobamba, ils ont de la taille. Qu'ils ont encore dans cette équipe
Il s'est cassé les côtes là, son nom.
Melton
là. Non, l'autre qui s'est cassé les côtes, qui s'est fait renverser par une voiture.
Kelly Oubre Jr. qui est fort. Nico Batum qui attend avec grande impatience le retour de Joel Embiid pour de nouveau être starter et avoir. Ils ont tout en magasin en fait. Joel Embiid est la pièce manquante pour que les Sixers aillent au bout, tout simplement. Et si Joel Embiid n'était pas blessé.
Donc pour toi, c'est le vrai MVP de la saison. Et toi, Arnaud ?
Oui, mais le problème, c'est qu'il ne fait rarement ses fameux 65 matchs. Quand il est là, c'est phénoménal. Il a commencé à refaire son retour à l'entraînement sur le terrain, blessure au genou gauche qui coûte une absence depuis le fin janvier pour les Sixers. Mais le problème, c'est que...
Après, Kuminga lui est tombé sur le genou. Honnêtement, je pense que beaucoup se seraient blessés sur ses actions.
Hein, c'est comme Neymar, ça. On lui tombe dessus, mec. C'est pas de sa faute s'il est blessé, s'il était blessé au Paris Saint-Germain.
Mais moi, je comprends jamais qu'on reproche à des mecs.
Tu vois, Kuminga, c'est Loïc Perrin.
Ça, c'est un truc, c'est un mystère absolu. On peut le déplorer, mais qu'on le reproche au blessé, c'est incompréhensible.
Kuminga, c'est Loïc Perrin. C'est Loïc Perrin, mec. Il a saccagé Joel Embiid.
Ça dépend du type de blessure.
C'était Zemzemi.
Ça dépend du type de blessure.
Zemzemi, c'est ça.
Zemzemi. Oh, catechiste de Manima. Zemzemi.
Mais le problème quand tu récompenses à MVP, c'est vraiment la régularité, la constance sur une saison. Donc, cette règle où il faut au moins jouer 65 matchs paraît plutôt cohérente parce que
mais c'est pour ça qu'il est beau ce trophée.
Mais tu sais, il faut être régulier tout le temps. Cette règle des 65 matchs, il y a eu des polémiques en disant ça force les joueurs qui ont des douleurs à jouer pour entrer dans les clous. Mais finalement, dans l'histoire de la NBA, il n'y a pas un mec qui a été MVP qui avait joué moins de 65 matchs, en fait. Ça n'a pas tout chamboulé, en fait. Tous ceux qui ont été MVP, ils avaient joué 66,
avant
67,
la règle, avant tu veux dire.
Ouais. Ça n'a pas tout chamboulé.
Mais ça paraissait logique d'avoir joué un minimum de matchs, parce que sinon, ce n'est pas représentatif sur une saison.
Alors,
cette règle, Rudy Gobert n'aurait pas été défenseur de l'année en 2018 si la règle elle avait été instaurée, parce qu'il avait joué que 56 matchs quand il était défenseur de l'année, Rudy Gobert, en 2018.
Voilà, donc comme quoi la règle est arbitraire.
Parce que non, il n'y avait pas la règle à l'époque.
Oui, mais c'était vraiment le meilleur défenseur de l'année, donc il n'y avait pas non plus de scandale. Oui. Alors, comme on sait que ce ne sera pas lui, je vous pose la question maintenant, qui sera le MVP ? Et est-ce que vous estimez que c'est ouvert cette année ? Ou est-ce qu'il est promis à Jokic ? Est-ce qu'il y a un vrai match ?
Pour moi, il y a un vrai match.
Entre qui et qui ?
Chez Gilgeous-Alexander et Jokic, pour moi.
C'est de là seulement.
Pour moi, ceux qui sont au-dessus. Alors après, les autres sont forts aussi.
Après, Doncic, il fait des trucs incroyables.
Sauf que son équipe, franchement, elle est compliquée. Elle est très, très compliquée. T'as Giannis. Mais Giannis, malheureusement, je crois qu'on s'est effectivement habitué à l'exploit quand on parle de Giannis. En fait,
comme Jokic.
Ça choque un peu moins.
Après, Giannis peut payer le fait qu'il y a eu les déboires à Milwaukee, que le coach Griffin soit parti, que Doc Rivers arrive, que Damien Lillard fasse une très petite saison. Est-ce qu'on peut imputer ça à Giannis, la petite saison de Damien Lillard ? Je ne sais pas.
C'est un peu dur.
Oui, c'est un peu dur. Avoir ce regard-là. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de déboires autour des Bucks, alors que la saison, mine de rien, sportivement, les chiffres sont corrects. Mais je pense que Giannis, il est un petit peu derrière ces deux loustiques.
Et Tatum, pour moi, c'est le cinquième qui pourrait être cité. Pour moi, c'est Tatum. Sauf que j'ai l'impression que cette équipe de Boston, mais c'est tellement dilué. En fait, il y a tellement de talent.
Ce qui est bizarre, c'est que tu dis Doncic, il pâtit des performances de l'équipe en négatif, et Tatum pâtit des performances de l'équipe en positif. C'est bizarre.
Vous êtes plein de contradictions, monsieur Weiss.
Non, je ne suis pas du tout plein de contradictions. C'est bizarre. C'est logique. Mais c'est complètement logique ce que je suis en train de dire. On a un Tatum qui n'est pas toujours le meilleur joueur de son équipe. Parce qu'il y a Jalen Brown, il y a Porzingis, il y a trois joueurs dans cette équipe.
Et Jokic, il y a Jamal Murray.
Oui, et qui d'autre qui met 20 points là-bas ?
Michael Porter Jr. Non, mais pas 20 points.
Après c'est Jalen Williams qui est en dessous de 20 points. À Denver, il y a Jokic, il y a Jamal Murray qui est tout juste à 20 pions. Mais Jason Tatum, il y a Jalen Brown qui est à 22 et Porzingis, il est en dessous des 20. Mais on va quand même essayer de défendre le cas de Jason Tatum qui. Alors, sur les chiffres, c'est en deçà des autres loustiques, mais on peut dire qu'il pâtit aussi de la compétitivité de Jalen Brown, qui a été élu joueur de la semaine.
C'est pour ça que je dis que c'est dilué.
Et qui a 22 points de moyenne.
C'est pour ça que je dis que c'est dilué, le talent là-bas.
Mais ça reste quand même le leader de cette équipe.
Le meilleur joueur de la meilleure équipe.
Il est à 27 pions, il a fait deux matchs à 45 points, il a fait un match à 15 rebonds. C'est une équipe qui marche. Ils ont mis 50 pions aux Warriors, ils ont mis 40 pions aux Clippers au mois de décembre. Et il y a un vrai cas à défendre pour Jason Tatum. Alors, les chiffres sont moindres parce que les autres font des trucs de mutants. Mais quand tu as gagné 48 matchs, que tu en as jouer 57 avec ton équipe, que tu es rarement blessé et que tu es leader de ton équipe, pour moi,
elle est fantastique. Mais quand je vois l'équipe de Boston, bah sur chaque match, je me dis pas c'est Tatum qui va être le leader. Quand je regarde OKC, je sais qui va être le leader de cette équipe. Ça sera Shea. Quand je regarde Denver, je sais qui va être le leader de l'équipe.
Alors,
ça sera Jokic.
Là où tu as raison, c'est que on fait un peu de science-fiction. T'enlèves Shea d'OKC, cette équipe elle n'existe plus. T'enlèves Jokic de Denver, cette équipe elle n'existe plus. T'enlèves Tatum de Boston, elle existe encore.
Elle existe encore.
Parce que t'as
Alors,
Jalen
pas
Brown,
haut,
t'as Porzingis, t'as Derek White, t'as Jrue Holiday.
Pas aussi haut, mais elle existe.
Exactement.
Ouais, mais après, t'es dans un sport collectif, donc c'est la définition du trophée individuel qui est en cause. C'est-à-dire que est-ce qu'un mec qui est parfaitement intégré dans un collectif fantastique mérite pas autant qu'un soliste le titre de MVP? On peut faire
un
débat,
hein, ce débat peut exister. Sur Jason Tatum, attention au fait, la prime aux joueurs américains, parce que ça fait un petit moment quand même que ça échappe, ce trophée de MVP, un joueur américain. On sait que les votes, ce sont les journalistes qui votent, qui te donnent première place, deuxième, troisième place, et ça te donne des points. Et ensuite, on fait un classement. Donc, ça peut aussi jouer en faveur de Jason Tatum.
Alors ça, il faudra attendre que... comment il s'appelle président des États-Unis?
Biden,
Biden.
Non, l'autre.
Donald Trump.
Trump passe. Si Trump passe, c'est sûr que ce sera un Américain qui sera élu.
Alors, après Nikola Jokic, j'ai retrouvé ma petite stat, c'est qu'il avait fait un triple-double à l'issue du troisième quart-temps pendant 4 matchs d'affilée.
Il te manquait beaucoup de choses.
Comme
la semaine dernière sur la défense de LeBron James pour la meilleure saison.
Si vous avez aimé l'épisode de la semaine dernière ou si vous ne l'avez pas encore écouté, écoutez-le. Il y a eu un débat sur le meilleur rookie de l'histoire et en fait, le pauvre Arnaud était mis dans les cordes par les deux là, alors qu'il avait un argument massu qui n'a jamais sorti.
Bah c'était son âge.
L'âge de LeBron James qui a 18 ans était en train de faire une réalisation.
Nous avec Fred, on
une saison
il
historique.
Il va pas le dire. Après,
et que à l'âge où les autres étaient rookies, lui il était champion.
On m'a dit qu'il avait 19. Hein. C'est pas non plus comme s'il était
18 ans, non ?
Il y avait 19 Magic.
Ah Magic 19.
Donc c'est pas.
Il y a 2000 points de LeBron James, non pardon.
Bon bref, revenons à notre débat. Shai ou Jokic ?
Là à l'instant T, Shai.
Et pour quelle raison majeure ?
Parce que j'ai l'impression que c'est lui qui impulse l'énergie à cette équipe. Par exemple, hier, le match, on en parlait tout à l'heure contre les Lakers, Shai n'est pas dans le coup, il n'arrive pas à imposer du rythme. Ben, il ne se passe rien à la création dans cette équipe. Et en plus, il est bon, c'est le meilleur intercepteur de la Ligue, très bon scoreur et bon défenseur. Donc pour moi,
Arnaud,
moi la question c'est Jokic ou Tatum, et je dirais plutôt Jokic.
D'accord.
Ah ben, il fait sa propre émission.
Non, mais il a le droit. Parce que
il fait une émission parallèle.
Il y a 5 candidats. C'est vrai que Jokic a l'air au-dessus, mais ouais, c'est quand même des très très forts joueurs qui font des saisons fantastiques.
Et des très bons bilans.
Si c'est un des 5, il n'y a pas de scandale.
Il est relativement indécis ce trophée par rapport à certaines saisons où c'est évident, non ? Cette année,
l'année dernière, Joel Embiid, il y avait quand même ce duel encore face à Nikola Jokic.
Il y a eu des saisons où c'était évident, je veux dire.
Quand Yanis était MVP, il y avait aussi le duel Yanis-Jokic.
Oui, bien sûr.
LeBron James a gagné des trophées MVP sans qu'il y ait de débat, par exemple.
Steph Curry a été MVP à l'unanimité, oui, bien sûr. Mais alors, tu me poses la question ou pas ?
À toi, oui, vas-y.
Alors, moi, je vais respecter ta question. Shai ou
Nikola Jokic ? Non, la question était spécifique à Fred, parce que j'ai compris que pour lui, il y en avait que deux. Mais pour toi, il peut y en avoir d'autres.
Moi, je veux dire Mike James.
Mike James, parce qu'il fait une très belle saison avec Monaco.
Non, mais en fait, pour la nouveauté...
Est-ce qu'il peut être MVP de l'Euroleague, lui ?
Oui, j'espère. Mais pour la nouveauté, je crois que ce que fait Shai Gilgeous-Alexander, la montée en puissance de cette équipe d'OKC, deuxième meilleur marqueur de NBA, surtout qu'il a 54% au tir. C'est exceptionnel pour un meneur arrière, en prenant seulement 3 tirs à 3 points par match, dans une ère où c'est une gabégie de tirs à 3 points. Ce mec-là est deuxième scoreur de la Ligue, alors que le tir à 3 points... c'est pas vraiment son truc.
Non, clairement.
Donc, c'est que du drive, que du tir, des jumpers au petit périmètre. Il a un panel. Alors, le petit bémol, c'est qu'il n'a pas fait triple-double. Donc, on peut dire qu'il n'est pas vraiment ultra complet par rapport à Jokic, qu'on a déjà fait 19 cette saison.
En plus, vrai joueur FIBA, on se rappelle à quoi.
Oui. Magnifique.
Un record. Fou qu'un meneur prenne des rebonds, non ? C'est bon, non ?
Mais à un moment donné, ouais, quand tu veux départager des mecs qui sont très proches, tu essayes de regarder ce qu'il va pas.
Le problème de ces triple-doubles-là, c'est qu'il y a plein de rebonds qui veulent rien dire. C'est-à-dire un rebond d'équipe ou un rebond de meneur ou d'arrière, quelle est la différence au final ? Des fois, ça te tombe dans les mains et si t'en as 10 ou 9,
je réfute.
Ça, c'est une vraie valeur.
Voilà, ça, c'est une plus-value par rapport à Jokic, défensivement.
Voilà.
Shai Gilgeous-Alexander.
Donc, pour toi, c'est Shai.
Pour moi, c'est Shai.
Très bien. Et Luka Doncic.
Je suis un peu timide, hein, mais.
Luka qui fait quand même une.
Mais Luka, le problème, c'est que les Mavs, ils se battent pour être sixième. Donc, c'est compliqué. Mais alors, Luka Doncic, il fait une saison.
Ah, mais il fait une saison quand même abominable. Ouais, enfin, abominable au sens.
On peut dire que le terrain est en pente, quand même, pour Luka aussi. Hein.
Ouais, mais il fait une saison salopard.
Il est écœurant, quand même, pour ses adversaires.
Et lui, par contre, il a fait un triple double à la mi-temps. Et c'est une vraie stat. Que je corrigerai pas tout à l'heure.
Le triple double,
c'est contre les Sixers, non ?
Ah, tu veux vraiment l'info ?
Bah, mais il me semble, parce que
Doncic triple double, make history first.
Je vais te dire. Et tu sais ce que c'était son triple double ? C'était 3 Big Mac, 3 Mac Bacon et 3 McFlurry.
C'est pas un gros, arrête.
C'est la pub Amazon.
Bon, avant d'avoir l'avis du chien de Stephen, on avance sur ce spécial MVP, spécial récompense podcast que vous retrouvez tous les mardis sur rmc.fr. The drive. Oh, it's knocked away by
Wembanyama. Knocked away by Wembanyama. We're going to be talking about the coach of the year. And for my first candidate who I think could potentially win coach of the year, it's Jamal Mosley of the Orlando Magic.
Leonard. Taking his time. Blocked by Gobert!
And for our last head coach that we're going to be talking about on who I think will win Coach of the Year, I have Frank Vogel of the Phoenix Suns.
Porzingis matched up with Gobert. Porzingis trying to put the moves on Gobert!
Wembanyama just put in his 10th, 12 for Middleton. Wembanyama. Oh, goes back! Oh, no! And puts it down!
Nous allons donc passer en revue les candidats, les favoris pour les autres récompenses de l'année. Le but n'est pas de savoir qui sera le meilleur sixième homme entre Malik Monk ou Norman Powell. Le but est de parler des joueurs qui impactent la saison. Hein. Voilà, donc le sixième homme, on fait vite. Voilà, ça, c'est ma décision.
Ouais. J'ai ma réponse.
Oui.
C'était contre, effectivement, Fred, c'était contre Utah.
Utah, parfait.
Le 6 décembre.
Donc, on l'a déjà beaucoup dit, mais il n'y a plus de débat pour le rookie de l'année. Ce sera Victor Wembanyama.
Sauf si Chet Holmgren fait des trucs historiques.
Ça peut encore
il
arriver.
Dans le trou, là,
s'il fait un match Chet. À 50, on ne sait pas.
Chet, il est un peu dans le trou, là, concrètement.
Mais oui. Redisons un mot quand même de la performance qui ne fait que croître de Victor Wembanyama pour sa première saison. Là, là on vit un truc génial quand même. On vit un truc historique, là.
On vient, mais en même temps, il marque l'histoire à chaque fois. Quasiment, dès
c'est dur de, sorties, c'est dur de c'est le historique. Faire quand t'es annoncé, hein, quand t'es annoncé comme étant l'élu. Assumer, c'est difficile.
C'est
hein.
Quand la dernière fois qu'il y a eu une hype aussi importante et que le mec assume.
C'est LeBron.
C'est LeBron. Exactement. Et le mec est français et il arrive à assumer ce statut incroyable et il est même au-dessus au-delà, des prévisions. Ouais. Et franchement, c'est quel plaisir d'être français.
It's just the beginning. It's just the beginning.
C'est le début de l'histoire.
Ouais. Elle est belle histoire.
On va voir ce que les Spurs font. Hein.
Parce que lui, il va avoir une armoire à trophées. Il va avoir une armoire à trophées individuelle.
T'as entendu le rabat-joie, là ? Oui. Et là, on va voir ce qu'ils font.
Ah, tu relèves ?
Oui,
ça va passer comme ça, normalement.
Pardon, mais dans Stephen Time, on en a fait un débat, je crois, monsieur. Hein.
Pardon ?
Dans les GG aussi.
Débat hein. Dans Stephen Time. Et dans les GG aussi.
Alors, ces derniers jours, là, les Spurs ont gagné des matchs. Est-ce que vous pensez que ça va continuer ? Ou est-ce que c'est
gagné ?
Oui, je pense que ça va gagner plus, là, en fait.
Ouais, je pense qu'ils vont bien finir.
Je pense qu'ils ont compris comment gagner, en fait. Je crois qu'ils jouent mieux ensemble, je crois qu'ils sont plus collectivement solidaires.
Ils jouent plus, ils jouent un peu plus que 30 minutes.
Ils cherchent Victor. Oui. J'ai vu 2-3 fois de la triangulation pour revenir sur lui pour se bas. Et ça, c'est hyper intéressant.
Produit en croix. Tac, tac, tac. Mais ils vont jouer des équipes qui n'en ont plus rien à cirer, qui vont mettre des mecs au repos, donc ils vont l'attraper 6-7 encore.
Et dernière question, parce qu'on ne va pas le faire toutes les semaines, mais un move ou une recrue qui sera intéressante pour bien fitter dans cette équipe. L'année prochaine, ça serait
quoi? J'ai tapé un délire l'autre fois dans mon lit tout seul. Je me suis dit.
Près de machine.
Je me suis dit, LeBron James est en fin de contrat. Je me suis dit, LeBron James va aux Spurs. Les Spurs draftent le Bronny James la saison prochaine. Et donc, voilà. LeBron joue avec Victor Wembanyama.
Et Bronny.
Et Bronny, mais, oui, mais Bronny, c'est juste pour l'équipe.
Le problème,
quoi.
C'est que les Spurs vont drafter super haut.
Ils ont 4 choix, je crois, 5 choix.
Après, il n'y a pas une draft de folie annoncée?
2025.
2025, c'est bien.
Donc, ils vont prendre quoi? Un meneur?
Je sais pas, je sais pas.
Moi, je partirais sur un meneur, mais après, on sait pas.
Après, le meneur, ils peuvent l'avoir en échangeant aussi des joueurs.
Oui. Ah, ça vous a pas kiffé mon délire, là?
Si, ça serait. Pas, ça serait... Mais on n'y croit pas.
Je vois pas LeBron à San Antonio, quoi. Voilà.
Mais, ouais. Franchement, t'as des délires qui me plaisent, hein, mais c'est chelou, quand même.
Alors, on enchaîne. Défenseur de l'année, Gobert.
Gobert.
Ça peut pas être Victor Wembanyama.
Non, je pense pas.
Arnaud, vas-y.
Je pense que Victor part. Toutes ces actions, là, récemment, le compte sur Chet Holmgren, il y a eu le compte contre Boston.
Il y a la défense collective aussi, la meilleure défense. Tu vois, c'est assez paradoxal. C'est que tu me dis, le meilleur joueur de la meilleure équipe doit être MVP dans la discussion. Et là, le meilleur défenseur de la meilleure défense, il doit pas être meilleur défenseur.
La défense ouais, est non, mais
l'impact défensif de Wembanyama est tel que tu peux pas quand même le négliger.
Oui, sauf que le problème c'est que collectivement il défend pas. Donc c'est pas suffisant en fait. Il faut que il entraîne ses coéquipiers.
Ah oui, mais son équipe est bien meilleure défensivement quand il est sur le terrain. Mais donc ça compte.
Évidemment aussi. Sauf que la meilleure défense c'est pas eux.
Mais je pense qu'en termes, parce qu'il faut marquer les esprits des gens, et je pense que l'impact défensif de Victor Wembanyama imprime très fort aux États-Unis par toutes les actions, les blocs. Etc.
Je pense que ça peut le faire. Moi, je pense que les gens comprendraient
pas qu'une
défense aussi moyenne, voire mauvaise que San Antonio, même si elle progresse bien dernièrement, là.
On peut prendre la question différemment. Je vais me tourner vers Steve qui n'a pas dit encore grand chose dans ce débat.
Parle de défense.
C'est quel est le meilleur.
Il est parti.
Quel est objectivement le meilleur défenseur entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama? Pour toi. Quel est le meilleur défenseur des deux pour toi?
Le meilleur défenseur
de
deux.
Il y a pas de piège, hein.
Le meilleur défenseur de deux, c'est Victor Wembanyama.
Voilà, donc la question peut se poser.
Mais je suis complètement d'accord, sauf qu'à un moment, il faut être cohérent avec les résultats de l'équipe aussi.
Oui, ce que fait Minnesota, qui est quand même leader de la conférence Ouest, défensivement, c'est l'équipe qui, au defensive rating, est numéro 1, au point encaissé, est numéro 1. Et la transformation de cette équipe-là, grâce à l'arrivée de Rudy Gobert, elle est phénoménale. Donc l'impact qu'a eu Rudy sur même ses coéquipiers, sur Karl Anthony Towns, sur Anthony Edwards.
Ils y font presque Karl Anthony Towns.
Exactement. Donc,
ils y sont arrivés.
Il y a cet impact-là. Victor, je pense que Victor va battre le record du nombre de trophées de défenseurs de l'année de l'histoire de l'NBA. Ça va être à 6, 7, 8, 9. Victor Wembanyama. Maintenant, moi, ça me gênerait de donner à Victor pour une équipe qui, parfois, a pris des 150 pions, 140 pions sur un match. Alors, Victor fait sa part du boulot, mais il fait partie quand même d'un collectif défensif qui est très mauvais. Donc, moi, ça me gênerait. Mais est-ce que Victor, si tu prends Victor ou Rudy Gobert en 1 contre 1, je pense que Victor est capable de tenir des garçons un peu plus à l'aise balle en main éventuellement switcher et défendre des gardes qui vont driver, peut-être même les laisser passer, mais les attraper au contre par derrière. L'envergure, le wingspan, alors oui, il est plus grand que Rudy Gobert, et pour moi plus gênant que celui de Rudy. Et d'ailleurs, c'est Rudy qui avait dit ça quand il avait joué Victor. Ouais. Il avait dit, je ressens un petit peu ce que les gens ressentent quand ils sont face à moi. Donc, je pense que Victor a une palette défensive un peu plus globale que celle de Rudy, mais Rudy mérite d'être défenseur de l'année cette année.
Après, si on parle des autres défenseurs qui ont un impact, Adebayo fait une grosse saison.
Il y a toujours Adebayo, il y a toujours Yannis, il y a toujours des mecs comme Derek ça.
Derek White des Celtics.
Oui, bien sûr.
Très fort.
Jrue Holiday, oui. Honnêtement, qui défend un petit peu sur tous les postes. Moi, j'adore.
Et alors, on va passer au joueur.
Par contre, on va sûrement avoir deux Français dans le meilleur 5 défensif de la NBA. Et ça, c'est très rare. Hein.
Ouais, et aussi en équipe de France, bien entendu.
Oui.
Mais ça, c'est assez excitant quand même.
C'est ouf, quoi. Meilleur 5 défensif de NBA, si t'as Rudy et Victor, ouais, c'est incroyable.
Et puis alors, donc, on va parler des joueurs ayant le plus progressé. Et là, ça va être intéressant parce qu'il y a des joueurs qui ont explosé. Alors, il y a Alperen Sengun, comparé à Nikola Jokic, par exemple. Est-ce que la comparaison...
Mini Jokic, qu'on appelle, oui, clairement.
Est-ce que la comparaison est valable?
Oui, parce que quand on regarde ses stats, il est à 20 points, 9 rebonds et 5 passes.
Et donc, dans le jeu, dans la façon
dans
de
jeu,
jouer.
Oui, il a une bonne vision du jeu.
Des bonnes mains.
Il a de bonnes mains. Alors, il a un gros défaut, c'est que lui, il défend encore moins que Nikola Jokic. Parce que Nikola Jokic est très intelligent, donc il sait se placer, il sait comment se situer. Et quand il veut défendre, il peut défendre. J'ai l'impression que Sengun, c'est vraiment pas...
C'est un mini Jokic, en fait, Sengun. Il fait des passes que fait Nicolas derrière la tête, il a un vrai sens du panier. Maintenant, il y a la déception Houston. On attendait Monts et Merveilles après tous les moves qu'ils ont fait. Fred Van Vliet, Ime Udoka, Dylan Brooks, ils ont fait venir beaucoup, ils ont pété la tirelire. Ouais. Et ça marche pas. Je crois qu'ils ont gagné 6 matchs à l'extérieur cette saison ou 7. C'est cata. Donc il va payer ça, mais bon joueur. Hein,
et puis très grosse progression.
Oui.
Alors, le favori, c'est Maxi.
Oui.
Moi, mon petit coup de cœur, c'est Jalen Johnson, le joueur d'Atlanta, qui, quand même, de l'année dernière, était à 5 points, 4 rebonds en 15 minutes, est passé à quasi 16 points, 9 rebonds, 3 passes en 34 minutes. Évidemment, il joue plus, mais t'as quand même, il triple son nombre de points, même si Atlanta fait une saison.
Nul.
Oui.
Peu décevante, voilà. Bon, Trae Young est blessé.
Il est gentil, mais il n'a pas utilisé le terme. Bon. Mais quel est plus dur, de passer de 20 points à 26 et de 3 passes à 6 passes pour Tyrese Maxey dans une équipe qui gagne, ou passer de 5 points, 4 rebonds dans une équipe pourrie à 15 points, 8 rebonds?
Mais après, tu as aussi le côté changement de rôle et il a pris une autre dimension. Après,
Maxey aussi. Maxi, là, Maxi il est passé de backup entre guillemets à.
On cherche le joueur ayant le plus progressé. Déjà,
Ah mais non.
Ah oui, mais sauf que énorme attente sur Maxi, Harden s'en va. Est-ce que t'es capable d'être le meilleur de jeu de Joel Embiid?
Maintenant, c'est les clés du camion, c'est pour toi. Et franchement,
et puis un match à 51 points, un match à 50 points pour Tyrese Maxi. C'est
après, j'aime beaucoup Kobe White. Alors, je sais que c'est un ton en dessous, mais je trouve que la saison qu'il a fait.
Kobe White, il passe de 9 à 19. Alors, il profite de l'absence de Zach LaVine. Et Kobe White, l'année dernière, j'étais à Chicago voir des matchs. Il restait que son maillot dans la boutique, personne n'en voulait. Il était à deux doigts d'être tradé d'ailleurs, parce qu'il y a une saison 4 l'année dernière.
Mais et finalement, il se trouve starter. Les maillots, maillots sont bien vendus. Ouais,
exactement.
Mais son coiffeur, il est en prison celui-là, non?
Mais il a une forme de style.
En fait, dès qu'un mec a une touffe, c'est Nadir Hiffy, c'est ton coiffeur, il est en prison.
Mais lui, il va loin dans le délire quand même.
Bah, il a une afro, il a une bonne touffe.
Et Dinoui dit aussi à l'époque.
Il est très volumineuse.
Moi, j'en rêve de ça.
Attends, rêve, mais toi, tu peux pas le faire. Ça, c'est sûr.
Il y a Jalen Williams, donc ici aussi. Hein,
oui, c'est vrai.
Il fait une deuxième meilleure score derrière Shai Gilgeous-Alexander.
Bon, là, on n'a pas de français.
Très bon,
hein,
très bon.
En MIP. Hein.
MIP non.
Il y a deux joueurs.
On a l'inverse. On a le most.
On a le MDP, le most decreased player. On peut en avoir.
Ce serait qui? Franck Nilikina.
T'as vu que Théo Malédon était coupé cette
année. Je pense que Kylian
Hayes. Si on devait choisir le pire, c'est Kylian Hayes.
Toute cette génération, il faut qu'elle rentre en Europe et qu'elle fasse une belle carrière en Europe. Parce qu'ils ont les moyens de le faire.
Ouais, peu importe où, il faut qu'il joue au basket.
Là, ça y est, c'est pas grave. Tu peux accepter un échec en NBA sans que ta carrière soit finie. C'est pas grave.
Nilikina a compris.
Ils ont des belles choses à faire en Europe, Fred.
Je suis d'accord, sauf que Kylian Hayes, c'est quand même un vrai affront. Hein. Drafté aussi haut qu'il l'a été, c'est chaud hein, d'avoir été coupé comme ça.
Pour finir sur les récompenses.
Il a appelé Jabari Parker, numéro 2 de la draft, qui joue à Barcelone. Il va lui expliquer, c'est sympa l'Euroleague. Hein,
exactement. Jabari Parker, il joue à Barcelone.
Oui, il joue bien. Belle saison.
Il y a deux joueurs dont j'aimerais dire un mot, puisqu'on est sur les récompenses individuelles. Ils n'en auront pas, mais l'un comme l'autre, moi je trouve qu'il y a des choses à dire. D'abord, Donovan Mitchell, qui fait quand même une saison, une sacrée saison quand même. Au scoring, du moins, tu me regardes d'un
regard. Je t'écoute.
Après, tellement de densité dans.
Il est bon, Donovan Mitchell.
Non, mais quand même,
Cleveland fait une belle saison.
Une sacrée saison, quand même.
J'adore le joueur.
Maintenant, Donovan Mitchell, on l'attend aussi en post-season. L'année dernière, ça a été un crash absolu. Les Cavs, ils se font taper par les Knicks. Oui, mais t'attends quand même que ton leader.
Il était complètement.
Oui, mais t'attends quand même que Donovan emmène les mecs sur son dos. Il était mollet, il est blessé, je crois, trois matchs.
Il est blessé.
Il y a un autre joueur qui, pour moi, un mystère. Là, vous allez peut-être répondre à mes interrogations. C'est Tyrese Haliburton. Qui a fait un début de saison absolument fantastique.
Là, il met plus
un. Il s'est blessé et qui a été géré bizarrement parce qu'il est revenu. Ensuite, ils l'ont remis au repos et puis depuis, il joue peu.
Là, il met plus un panier à
trois points. Post All-Star, il est très mauvais. Ouais.
Et il n'a plus du tout, c'est plus du tout le même joueur qu'en début de saison.
Non, mais il a besoin de marquer des shoots à trois points déjà et il n'en met pas, donc c'est compliqué pour un extérieur qui ne met pas un shoot à trois points. Il a un shoot particulier, je suis d'accord. Mais là, son pourcentage, je crois que sur les 3 ou 4 derniers matchs, il est à 1 ou 0 sur 18. Ou
il ne met pas dedans et il fait moins de passes. Il fait moins de passes. Indiana tourne moins bien.
Mais
aussi.
Est-ce que ça peut avoir un rapport avec sa blessure ou c'est juste une question de confiance?
All-Star, fatigue. All-Star, c'était chez lui à Indiana. Peut-être qu'il a fait 2-3, il a envoyé 2-3 Smirnoff Ice.
Ça peut arriver, ça. Hein. Chaque année, il y en a qui tombent. Hein, qui tombent dans le trou, qui ne se relèvent pas.
Il ne nous branche pas sur les coachs.
Sur les coachs de l'année, c'est qui le coach de l'année?
Joe Mazzulla,
Boston. Martigno, OK.
Martigno, OK.
Joe Mazzulla.
Très bien. Bon, voilà.
Juste une question. Qu'est-ce qui est le plus dur? Coacher une équipe jeune, la faire progresser, la faire grandir et qu'elle se retrouve dans le Wild Wild West numéro 1?
J'irai pas qu'est-ce qui est le plus dur. Qu'est-ce qui est le plus honorable?
Ou coacher les Boston Celtics avec toutes ces stars et tous ces joueurs incroyables?
Je trouve le plus honorable, c'est Marc Degnaud au KC.
Merci. Non, mais la progression d'OKC est très impressionnante sur les dernières années. Très, très impressionnante.
De quoi?
La progression d'OKC sur ces dernières années, sur les trois dernières saisons.
Bien sûr. Et puis Marc Degnaud sur l'intégration aussi de Chet Holmgren, comment le mettre au milieu du truc avec Shai Gilgeous-Alexander, c'est bien.
Messieurs, nous allons refaire un peu l'histoire.
Today we're going to take a look at NBA MVP awards that made no sense. And for years, one of the most controversial winners is Steve Nash because he won back-to-back Most Valuable Player awards in 2005 and 2006. Steve Nash won the MVP with 65 votes compared to Shaq's 58. And some will say it should have been LeBron's award, but both LeBron and Kobe fans are missing the real picture here on Dirk Nowitzki, even though it clearly should have gone to Michael Jordan. Both men put up great seasons, but Jordan was just a step ahead. To keep it short, Carl averaged 27-9-4 and led his team to 64 wins.
Quel joueur s'est fait voler son trophée individuel MVP ou autre? Qui est le Andrés Iniesta ou le Franck Ribéry de la NBA. C'est toi qui démarres, Stephen. T'as mis du temps à choisir.
Ouais, je vais démarrer par un titre de MVP, le titre de MVP de 2006 qui a été remis à Steve Nash. Justement, c'était son back-to-back, c'était son deuxième consécutif. Il refait une saison magnifique. Steve Nash, il est en double-double, 18 points, 10 passes. Il est en 50, 40, 90, 50% à 2 points, 40% à 3 points, 90% au lancer franc. Phoenix est premier de la saison régulière sur la conférence Est avec 50 victoires. C'était l'ère Mike D'Antoni, le basket flashy, tout pour l'attaque, avec ton babac d'ailleurs, Pierrot, ton babac national qui était là. Et c'est une défaite en finale de conf contre les Mavs. Mais cette saison-là, du côté des Lakers, c'est un garçon qui s'appelle Kobe Bryant qui va peut-être réaliser une des plus belles saisons régulières de l'histoire. Le Shaq est parti à Miami. Les Lakers sont loin d'être une équipe contender et Kobe fait une saison exceptionnelle. 35 points, 5 rebonds, 4 passes. Et il fait gagner 45 matchs à cette équipe. Ils vont en play-off. Ils perdent au match 7 contre les Suns. Mais ce qu'il a réalisé avec cette équipe-là, c'est tout simplement hors norme parce que c'est une équipe de bras cassés qu'il avait. Je vais vous faire le roster des Lakers. Lamar Odom qui avait encore un peu de farine sur le zen. Smosh Parker.
Gros joueur Lamar Odom quand même. Oh. Bon, après des petits problèmes personnels.
Oui. Smosh Parker, ouais. Kwame Brown, Chris Mim, Devan George, Luke Walton, Brian Cook et Sacha Vujacic.
Ouais.
Kobe Bryant, c'était la première, la deuxième, la troisième et la quatrième option offensive. Et surtout, il a marqué les esprits par deux performances hors normes. Il a mis 62 points en trois quarts-temps contre Dallas et il a mis 81 points contre Toronto. Rien que pour ça, pour moi, ça suffit pour être MVP de la saison.
D'accord.
Ouais, mais il prenait tous les tirs dans cette équipe. Vous ne pouvez pas faire autrement, ça, c'est vrai.
Steve Nash. Tu donnes les ballons à qui hein.
Je pense qu'il aurait mieux fait de mettre des passe-ballons sur le terrain que les mecs.
Je pense que tu mets Steve Nash dans cette équipe-là, des Lakers.
Ils sont champions.
Je pense qu'au mois d'avril, il est en vacances, Steve.
Steve Nash, exceptionnel player quand même. On ne peut pas dire qu'il a volé son titre de MVP. Oh.
Il a volé aussi celui à Shaq.
Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent qu'il ne méritait pas forcément. Hein. Beaucoup, beaucoup de gens.
Ok.
Il est peut-être mieux. Hein. Très grand joueur, très belle saison, mais il y avait mieux. Quoi,
c'est un MVP, un titre MVP pour Steve Nash, ok. Au-delà
c'est beaucoup pour toi. Pour un petit Canadien comme ça qui a des cheveux longs,
tu piques à Shaq, tu piques à Kobe, c'est beaucoup. Hein.
C'est quand même un des meilleurs meneurs de l'histoire, non Steve Nash, non Vous contestez ça?
Très bon joueur.
Ouais, très bon joueur.
Il le méprise, il ne respecte pas, c'est affreux.
Il l'a tapé, il l'a battu, Fred, à Sydney. Ouais,
bah, bravo, félicitations.
Grâce à qui? Grâce à Macan Dumassy.
Exactement.
Bravo, Macan, super défense.
À Lolo Sierra aussi, quand même. Non
ah non, c'est Macan Dumassy qui l'a éteint.
Bon, Arnaud, qui s'est fait voler son titre de MVP?
J'ai pris le titre MVP 1990 de Magic Johnson. Hein, troisième titre de MVP pour Magic. Il fait le back-to-back, 22 points, 6 rebonds, 11 passes. Meilleur bilan de la saison en NBA avec les Lakers, 63 victoires.
Tu vas avoir la première saison si tu critiques
sans
Magic,
Abdul-Jabbar, donc voilà, en matière de contexte, on peut se dire que c'est tout à fait logique. Mais dans le même temps, il y a un certain Charles Barkley à Philadelphie qui porte cette équipe. Parce que quand on regarde l'effectif, même sans Abdul-Jabbar des Lakers, où tu as quand même encore du James Worthy, multiple star, Byron Scott, Tacy Green, Michael Thompson, le père de Clay, il y a quand même du monde. Si je te dis R.C. Hawkins, Johnny Dawkins, Mike Grimsky, c'est quand même un peu moins sexy. Ça, c'était les coéquipiers de Charles Barkley qui portent Philadelphie. 53 victoires. Ils seront battus en demi-finale de conf par les Bulls de Michael Jordan. Mais il fait tout. 25 points, 11 rebonds, 4 passes, 2 steals, 60% d'adresse au tir. Il est exceptionnel, Charles Barkley. Et surtout, sur cette élection, il avait récolté plus de premières places que Magic Johnson, 38 premières places pour Charles Barkley contre 21 places seulement pour Magic Johnson. Et on va l'écouter, Charles Barkley, c'est sur le plateau de TNT. Il a encore un peu les boules.
I get robbed. And I mean no disrespect, because I love Magic Johnson. I respect Magic Johnson. But I got robbed out of the MVP.
Oh, so did I.
What year was this? I can't remember. Are you kidding? I got all the first place votes. It's the closest MVP vote in history. I got all the first place votes.
And I told people. You didn't get all the first place.
Well, I got the most of them.
Yeah, you got more first place votes than Magic did.
But I knew I should have been first, second, or third. Right. Worst case. Right. I didn't get into second or third place votes.
I know how you feel, man.
But
you what happened to me, Chuck?
But you've let it go. I haven't let it go.
I was kidding.
I've never let it go.
Il discute avec qui là?
Avec Shaq qui dit Shaq, moi aussi je me suis fait voler parce que voilà les propos de Charles Barkley, j'ai été volé malgré tout le respect que j'ai pour Magic Johnson. C'était l'élection la plus serrée parce qu'au final ça s'est joué à 22 points si on accumule première, deuxième et troisième place. Et surtout là où Chuck est assez amer, c'est qu'il n'avait eu pas de deuxième place, pas de troisième place, donc ça l'a énormément pénalisé. C'est pour ça qu'il perd. parce qu'il avait beaucoup plus de première place, qui rapporte plus de points.
Donc il ne faisait pas l'unanimité s'il n'a jamais été deuxième.
C'est le bénéfice des Lakers.
Il y avait
parce
peut-être
que tout
un
le
peu
monde a voté pour le Magic Johnson des
et
Lakers.
Surtout, c'est ça qu'il veut dire. Et surtout, il a dit qu'il n'a jamais oublié et qu'il n'a jamais laissé aller. Donc voilà, il a les boules.
Alors que le bénéfice des Lakers pour Kobe, ça n'a pas marché. Hein.
Et pour Shaq non plus.
Et Charles Barkley a été MVP en 93. Il a dû attendre quelques années. Mais là, il n'était plus à Philadelphie.
Je ne sais pas pourquoi,
Phoenix,
mais Fred s'est régalé pendant ton choix.
Ah, mais moi, j'ai adoré. J'adore la cohérence d'Arnaud Valadon. Vraiment. C'est le premier à te dire Tatum. C'est lui qui doit mériter parce que meilleure équipe, meilleur bilan, donc c'est lui qui doit être MVP. Et finalement,
j'ai voté Jokic.
Quand tu dis oui, mais tu dis qu'ils sont en compétition. Et finalement, quand on parle de Magic, il dit ouais, mais il était super bien entouré alors que Charles Barkley ne l'était pas.
Barkley aurait pu gagner ce titre quand même, Fred.
Donc, dans la même émission, il est capable de dire que être dans la meilleure équipe qui a les meilleurs résultats, c'est suffisant pour être MVP. Et en même temps te dire, ah oui, mais il vaut mieux ne pas être bien entouré. C'est magnifique.
On va les mettre à la console sur NBA 2K avant chaque émission, comme ça ils se prennent la tête, on rigole, nous, on revenait au spectacle.
Quand Fred était arrivé contre Arnaud, c'est qu'il a perdu à 2K. Hein.
Ah, mais il a gagné.
Moi je t'ai entendu brailler en tout cas.
Oui, mais je suis très mauvais perdant.
Alors, quel trophée as-tu choisi? Trophée qui a été volé à un joueur?
Alors, volé, je ne sais pas s'il a été volé, mais en tous les cas, le joueur lui aussi s'en plaint tout le temps, c'est LeBron James. Nous, les vieux, chaque fois qu'on parle de la différence entre LeBron James et Michael Jordan, on dit « Ouais, mais Michael Jordan, il a été meilleur défenseur de l'année. LeBron James ne l'a pas été. » Et il aurait pu l'être. Il aurait pu l'être en 2013. Et en 2013, c'est Marc Gasol qui est élu meilleur défenseur de l'année. Sauf que Marc Gasol n'est pas dans le meilleur 5 défensif.
Ouais, c'est bizarre.
C'est-à-dire qu'en plus dans cette année, il y a, ce qui est assez drôle, 6 joueurs dans 5, parce qu'il y a 2 joueurs qui sont en égalité. Donc il y a Serge Ibaka, Tyson Chandler, Joakim Noah, Tony Allen, Chris Paul, et donc LeBron James, qui sont dans le meilleur 5-6, parce qu'ils sont en égalité. Il n'y a pas Marc Gasol, mais il est élu MVP. Et en plus...
Meilleur défenseur de l'année.
Meilleur défenseur, pardon. Et en plus, comment dire...
Attends, refais-moi le 5, meilleur 5 défensif.
Le meilleur 5, c'est Serge Ibaka, Tyson Chandler, Joakim Noah, Tony Allen, Chris Paul et LeBron James.
Ok.
Donc ils sont 6, comme je te disais, parce que ils étaient à égalité. En plus, au vote du meilleur défenseur, LeBron James arrive deuxième. Donc lui, il dit, comment je peux arriver deuxième, vu que moi, je suis dans le meilleur 5. Logiquement, le deuxième, ça devrait être le premier, et je devrais prendre ce titre. Alors, il ne se rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Hein. À l'époque, Memphis était deuxième défense de la Ligue. Lui, il avait le meilleur defensive rating.
Il y a Tony Allen qui est dans le meilleur 5.
Oui, exactement. Donc vraiment, il y avait tout pour qu'on croit que LeBron ait ce trophée. Il ne l'a pas eu, il ne l'a pas mérité. C'est Marc Gasol qui l'a eu, et je suis ravi, parce que comme ça, je peux parler aux genoux en leur disant « Oui, le meilleur joueur de l'histoire, c'est bien Michael Jordan. »
Alors, juste un truc, 10 ans après, défensivement, il en est où, LeBron James?
Alors, concrètement, juste pour la blague, la dernière fois qu'il est dans un meilleur 5 défensif, c'est en 2013. L'année suivante, il est dans le deuxième meilleur 5 et après, il disparaît complètement des 5 défensifs.
Il a complètement changé de ce point de vue-là ou pas?
Il défendait moins, il y a d'autres joueurs qui ont voulu faire d'autres choses, il a vieilli un petit peu.
Et puis, tu as des meilleurs défenseurs qui sont arrivés aussi sur le...
Exactement, sauf que, tu vois, par exemple, hier, j'ai commenté le match des Lakers contre OKC et je l'ai vu défendre comme je ne l'avais pas vu défendre depuis des années. Donc, il a encore ça en stock, mais pas sur 82.
Après, ce qui choquait sur Marc Gasol, c'était le volume, hein, parce qu'il prenait que moins de 8 rebonds, moins de 2 blocs.
Mais dans une équipe défensive de
meilleur,
l'espace. Quoi.
Meilleur défenseur de la deuxième meilleure défense de la Ligue.
C'est un Basket Time spécial MVP. Nous allons terminer avec un quiz spécial MVP.
Ah oui.
Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
C'est pas pour Julien Lepers.
On se contente de Rocky à Rocky 5.
Et plus rock, c'est Rocky.
Pourtant, c'était The Chairman of the Board.
Hein? Asshole, motherfucker, son of a bitch.
I locked that shit up, boy. Fermez sa gueule à cette merde. C'est très serré, c'est passionnant. Voilà. Quel quiz, c'est incroyable. Alors voici donc le quiz spécial MVP. C'est pratiquement que du MVP. Il y a 2-3 autres trophées qui se baladent de ci, de là. Voilà.
De ci, de là.
Tu respectes pas les autres trophées, toi. C'est MVP ou rien.
C'est pas ça, c'est qu'on fait ce qu'on veut, non?
Non, tu fais ce que tu veux.
Alors, on va démarrer par un truc, une question tordue. Comme je les aime, je vais vous demander de me donner le deuxième d'un classement MVP.
Oh, salaud.
Je vous donne l'année et le lauréat. et vous me donnez le deuxième.
Moi qui fais ça. Bon.
Bah moi, il y a que moi qui fais ça.
Mais le problème, c'est que personne se rappelle des deuxièmes.
Le quiz Polydor.
Comme ça, vous êtes obligé de réfléchir à la saison, qu'est-ce qui s'est passé, nani nana, ça nous fait un peu revisiter les grandes saisons NBA. Qui est deuxième de Michael Jordan en 1992 ?
Olajuwon ?
Non.
Patrick Ewing.
Non.
Clyde Drexler.
Ouais.
Ah, bien joué.
Bravo. Clyde Drexler.
Clyde the Glide.
Qui est deuxième de Shaquille O'Neal en 2000 ?
Duncan ?
Kobe ?
Non.
En 2000 ?
En 2000.
Iverson ?
Non.
T-Mac ?
Robinson ?
Non. Non.
McGrady ? Non.
Karl Malone ?
Non. Mmh. Mmh. Parce que c'est pas une équipe de ouf, en fait.
En 2000.
C'est un très grand joueur, immense joueur dans une équipe qui a peiné de nombreuses années.
Peiné à l'Arabiata ?
À l'Arabiata, ouais. Oui, c'est même s'il devait être énervé, en effet. Ouais.
Pas Pat Ewing.
Non, je pense pas.
Deuxième de Shaquille O'Neal en 2000. Vous l'avez pas ?
Non.
Indice, il a dû changer de franchise pour être champion.
Kevin Garnett.
Kevin Garnett, c'est bon. Deuxième de Shaquille O'Neal en 2000, qui est Jarnett.
Ouais. Gagné après.
Qui est deuxième de Tim Duncan en 2003 ? 2003, les Shaq. Spurs. Bravo, les Spurs. C'est pas le Shaq.
2003.
Wade ?
Non.
Bah non, il est.
T-Mac ?
Non. Indice.
C'est super dur. Hein.
Indice, il a dû changer de franchise pour être champion.
Kevin Garnett.
C'était 3-0 pour Steve. Et enfin, qui est deuxième à de Derrick Rose en 2011 ?
LeBron ?
Non.
C'est
une saison un peu particulière. Hein. Vous sortez un peu de ces noms-là. Il faut sortir de ces noms-là. Vous ne l'avez pas encore cité. Déjà, Derrick Rose,
c'est
un peu un ovni. Bon, il le mérite, il n'y a pas de problème. Mais il est
je sais qui c'est.
Brandon Roy ?
Oui, c'est lui, c'est ça, exactement.
Superman.
Bravo. Dwight Howard ?
Bravo. Dwight Howard. On est à 4-0 pour Steve. Donc là, je ne sais pas comment
vous avez... Il a toujours été spécialiste des numéros 2.
C'est lui le MVP du quiz quand même.
Fais les cinquièmes maintenant.
Alors...
Cinquième, c'est pour moi. Et les quatorzièmes, c'est pour Arnaud.
Alors, qui est capable de me dire qui est le premier Clutch Player of the Year de l'histoire ?
Hein ?
Jerry West ?
Premier de l'histoire. Clutch Player of the Year.
C'est quoi Clutch Player ? C'est les mecs qui mettent les buzzer beaters.
Ça veut probablement. Le premier de l'histoire.
Ray Allen ?
Qui est le premier de l'histoire ?
Qu'est-ce que c'est que ça, gros ?
Vince Carter, pardon.
En fait,
Miller.
C'est 80, ça.
C'est un trophée qui existe depuis l'année dernière seulement.
Oui, c'est pour ça, Damien Lillard, non ?
Non, c'est pas Lillard.
Jalen Brunson ?
Et alors, il a eu le trophée, mais alors à l'unanimité absolue.
D'Aaron Renard.
Il a eu 91 points sur 100 possibles.
D'Aaron Fox ?
D'Aaron Fox, absolument.
Ah, quand je dis D'Aaron Renard,
Renard, pas, y a bon, pas.
Mais D'Aaron Fox.
Il le mérite ?
Je crois qu'il a mis beaucoup de buzzer beater de panier de la gagne l'année dernière.
Et ça vous intéresse, ce trophée ?
Non.
Pas
non.
Vraiment. Ça peut s'installer ou pas ?
Non.
Non.
Non. Bon, on va faire un...
Oui, c'est marrant.
Vous allez faire Fanny, Fred et Arnaud ?
Peut-être.
Ou... Qui est le seul joueur de l'histoire élu 5 fois de suite dans la All-NBA First
Team ? Will Chamberlain ?
Non.
Abdul-Jabbar ?
Non.
Jordan ?
Non.
5 fois... Larry Bird ?
5 fois de suite.
Bob LeBron ?
Non.
Magic ?
Non. Larry Bird ?
Non. C'est beaucoup plus récent que ça.
LeBron ? 5 fois de suite ?
Ouais.
5 fois de suite dans la meilleure...
Dans la All-NBA First Team.
Tim Duncan.
Non.
Chris Paul.
Non. C'est encore plus récent que ça.
5 fois de suite, All-NBA First
Yanis.
Team.
Yanis. Absolument. C'est le seul.
Bravo à lui.
C'est impressionnant.
Bravo. Ouais, c'est impressionnant.
Ils n'ont jamais eu le trophée MVP. Je vous donne un indice et vous devez déterminer qui est ce joueur. Il n'a jamais eu le trophée de MVP.
Ah, okay. Tu ne lui donnes pas le nom du joueur ?
Non. Je vous donne juste un fait de sa carrière et vous devez... Sachant qu'il n'a jamais eu le trophée MVP, vous devinez qui est ce joueur. Coéquipier d'Hakeem Olajuwon à l'université de Houston, puis...
Clyde Drexler.
Clyde Drexler, absolument. Bravo, Fred.
Au Cougar. Je crois qu'il jouait au Cougar.
Les Cougars.
Houston Cougar, avec Michael Young.
Exactement.
Et champion ensuite avec Houston et Olajuwon.
Il a dû changer de franchise aussi. Pour
lui aussi a dû changer de franchise. Comme quoi, cet indice n'était pas ultime. Ensuite, son fils a joué à Cholet.
Stockton.
C'est moi.
Non, simultané.
Simultané, donc je vous donne un demi-point chacun. Parce qu'on ne va pas non plus avantager Steve sur, tous les, sur toutes les questions. Ensuite, nous avons... Ah, champion avec les Bulls en 97, 11 ans après un troisième titre avec Boston. Quelqu'un qui a 4 bagues et qui a attendu
Robert
11
Parrish.
Ans.
Chief.
Robert Parrish, excellent. Oui, bravo, Steve. Il a pris le temps de la réflexion, il n'a pas paniqué.
Le chief, hein, c'est Robert Parrish. Mais bon.
Ah.
Non, mais il l'a dit avant. Hein.
Il a dit avant.
Mais, oui, oui, mon père.
Après, il a gagné, et après, je comprends pas parce qu'il a gagné de l'oseille quand même. Pourquoi Paris?
Paris. Arnaud, il n'est pas habitué aux blagues de Steve.
Si, mais si, parce que je suis client.
On en est à 6 points pour Steve, 1,5 pour Arnaud, 1,5 pour Fred. Qui a déclaré là, récemment à propos de Jokic, il est en train de fracasser la Ligue. Il est encore plus dominant que Wilt Chamberlain. Certains pensent qu'il serait encore plus dominant que le Shaq.
Gilbert Arenas?
Non.
Lui, il est bon dans les déclats.
Stephen Jackson?
Non.
Mike Malone?
Kevin Garnett?
Kevin Garnett, absolument. Un joueur qui a dû changer de franchise pour être champion.
Et grand ami de Fred.
Elle est forte, cette phrase, quand même. Hein. Plus dominant que le Shaq, plus ouais. dominant que Wilt Chamberlain.
Après, c'était pas sur le podcast de c'est Stephen Jackson, All in the Smoke, où il se roule des pecos toute la... Non, ah, avec Paul Pierce. Okay.
Ouais. Non, vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase?
C'est difficile à dire parce que
chaque mec.
J'ai quand même l'impression que Stephen pense qu'il a joué contre des enfants, Wilt Chamberlain.
Chamberlain, oui. Mais le Shaq.
Le Shaq, ouais, c'est chaud aussi.
Êtes-vous capable de me donner les deux joueurs rookies élus MVP?
Derrick Rose?
Non.
Chamberlain?
Rookie élu MVP?
Chamberlain, ça en fait un et c'est le deuxième qui est très dur.
Bob Cousy?
Alors, c'était dans la bonne période. Un peu
Elgin Baylor?
Willis Reed?
Non, non, on est en 1969.
Jerry West?
Aux Bullets de Baltimore.
West and Sled.
West and Sled. Bravo. Je le donne à Arnaud parce que tu n'as pas prononcé correct. Ah. Non, je le donne à Steve. Donc, Steve, tu es à 7. Tu es bon
sur la ligne. Rien parce que j'ai dit. Comment? Il y en avait deux. Il y a un point chacun.
Oui, c'est un
point.
Non,
chacun. Parce que c'était West and Sled qui était difficile à trouver. Allez, je te donne un demi-point tiens, pour compléter
voilà,
ton ouais, point. Allez.
Ça fait deux, quoi.
Ça fait t'es à deux. Ouais.
En fait, on a Marrakech, là. On négocie des points, en fait.
Allez, c'est presque fini. En 2012, Tony Parker est cinquième des votes pour le MVP. On va trouver tous les joueurs devant lui, sachant que le MVP est LeBron James.
C'est la même question que tout à l'heure, en fait.
Presque.
Qui est quatrième, troisième et
deuxième,
en fait.
Il y en a trois à trouver, mais je ne vous demande pas l'ordre.
En 2012
c'est Arnaud qui démarre. Il y en a trois à trouver.
En 2012
Tu me proposes un nom.
Ton stylo ne va pas t'aider, Arnaud. Hein.
Je note.
LeBron James, premier. Tipeee, cinquième.
C'est 2011 ou 2012?
2012.
Dwight Howard?
Non. Fred?
Dirk?
Non. Steve?
2012?
Ouais.
Dwayne Wade?
Non. Arnaud?
Chris Paul?
C'est bon, il est troisième. Fred? C'est rigolo parce que y en a... c'était plus difficile à trouver Chris Paul. Voilà, bravo, deuxième. On n'a pas encore prononcé son nom. Et Steve? Le quatrième de ce classement.
Aucune idée.
Aucune idée. Arnaud?
Carmelo?
Non. Fred?
Kobe?
Exactement. Ah bah bravo, oui. Fred. Fred, ça t'a fait du bien cette question. T'es à 4 points. Steve à 7. Ah non, je t'ai mis 2. J'ai mis les 2 points, Arnaud. T'es à 5 points et demi. C'est pas fini, hein, les gars. Hein. Non, mais c'est pas fini. Reste la question de 10 points.
Ils ont faim en studio.
Le mec, il se barre.
Il s'est plié. Il a plié le vote.
Vous éteindrez en partant, les gars.
Alors, il reste une question. Et là, Steve, tu peux encore perdre ce quiz puisque Fred est remonté à 5,5 points. Je sais pas par quel miracle.
Vous allez me donner. Aux questions, peut-être.
Vous allez me donner chacun votre tour un joueur qui a obtenu au moins 2 fois le trophée MVP. Ils sont 15. Dès que l'un d'entre vous est éliminé, les autres marquent un point à chaque bonne réponse. C'est bon pour vous?
Au moins 2 fois.
Au moins 2 fois. Il y en a 15. Arnaud Valadon.
Nikola Jokic.
C'est bon. Un point. Non, pas de point, pardon. Fred.
Jordan.
Pourquoi pas de point?
C'est bon. Non, je vous marquais un point dès lors qu'il y en a un qui est éliminé.
Ah, ok.
Ok. À toi, Steve.
Yanis Antetokounmpo.
Antetokounmpo, c'est bon, Arnaud.
LeBron,
c'est bon. Fred.
Shaq.
Le Shaq, c'est bon. Attendez, juste que je les barre. Je ne le vois plus. Le Shaq?
Non, le Shaq, il est une fois.
Pas
là,
bon.
Une fois. Ouais.
Le Shaq, c'est pas bon. À partir de maintenant, vous marquez chacun un point à chaque bonne réponse. Steve. Steve, c'est bon, absolument. 2 fois.
Oui.
Ah, c'est.
Arnaud.
Steve Nash,
c'est bon. Steve.
Michael Jordan a été dit,
oui, tout à fait.
Magic Johnson,
3 fois, absolument. Arnaud.
Larry Bird,
c'est bon, 3 fois.
3 fois de suite, lui.
Steve.
Moses Malone.
Excellent. C'est bon. Arnaud.
Abdul Jabbar,
6 fois quand même. Oh. C'est bon.
Bill Russell,
5 fois. Arnaud.
Chamberlain,
4 fois. Vous avez presque fait le tour. Il vous en reste 3 qui ont 2 titres. Steve. Franchement, vous pouvez tous les trouver.
Tim Duncan.
Tim Duncan, voilà. C'est fait. Arnaud.
Olajuwon.
C'est pas bon.
Ah, c'était qu'une fois.
Il en reste deux. Tu les as ?
Il en reste deux. C'est des contemporains ?
Il y en a un très ancien et l'autre année 90-2000. C'est trop tard, t'es éliminé. Alors, tu les as ou tu les as pas ?
Bah oui.
Kobe, on l'a déjà dit, non ?
Non, je l'ai dit, Kobe, je crois.
On l'a pas dit ?
Qui l'a dit ?
Bah non, mais il y est pas, c'est normal qu'on l'ait pas dit.
Une fois MVP seulement. Bah,
donc,
pas.
Donc les deux autres, c'était Bob Pettit et Karl Malone.
Karl Malone, ah ouais.
Malgré tout, tu as gagné ce quiz. Tu es le bravo, MVP Stephen.
Merci.
De Basket Time.
Bravo, merci, félicitations.
Félicitations. RMC Basket Time.